18h. Le journal de 18h. Christelle Yessot.
Dernier point d'information de ce jeudi 28 novembre. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Plus de 15 000 milliards, c'est le budget 2025 de l'État autorisé par l'Assemblée nationale ce jeudi. L'ONG Amnesty International, section Côte d'Ivoire, se réjouit de la décision de suspension par le gouvernement des opérations de déguerpissement. Vous écouterez à ce propos le plaidoyer du directeur exécutif de l'organisation. Et dans l'actualité internationale, en visite au Tchad, Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, appelle à la paix au Soudan. Ça y est, plus de 15 000 milliards de francs CFA, c'est le budget 2025 de l'État pour l'année 2025, définitivement adopté ce jeudi en plénière à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Un budget qui permettra de préparer l'année électorale et qui mettra un accent particulier sur la jeunesse, explique l'honorable Traoré Issouf, président de la Commission des affaires économiques et financières.
Dans un climat de convivialité, surtout à l'euro des élections qui se feront en 2025, il était tout à fait normal que les Ivoiriens, toujours dans leur ensemble, dans leurs entités, puissent se mettre d'accord pour le vote du budget de l'année 2025 qui nous permettra d'aller aux élections. C'est un budget de 15 000 milliards que nous venons de voter, qui va permettre à la Côte d'Ivoire de franchir les différentes étapes de l'année 2025 qui sera une année électorale. La particularité, c'est le social. Il faut équilibrer la jeunesse qui a des problèmes d'emploi et tout ça. Il faut regarder tout ça pour éviter que finalement cette jeunesse-là aide à la dérive au moment des élections par la corruption de certains de nos responsables qui peuvent amener à exciter la jeunesse à des affrontements inutiles. Donc il faut leur trouver de l'emploi.
À l'instant, l'honorable Traoré Issouf, président de la Commission des affaires économiques et financières du Parlement ivoirien. Et en parlant donc d'année électorale, les États-Unis souhaitent partager leur expérience de la présidentielle du 5 novembre dernier avec la Côte d'Ivoire. Lors d'une récente tribune d'échange entre l'ambassade et la presse, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire a affirmé son engagement à collaborer avec le gouvernement ivoirien pour renforcer le système électoral et promouvoir l'éducation civique. Les discussions ont porté sur l'établissement d'un parallèle entre les processus électoraux américains et ivoiriens à seulement 11 mois de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Mel Emmanuel pour les détails.
La démocratie, ce n'est pas une destination finale, mais c'est une itinéraire de voyage.
Une image pour signifier que la démocratie n'est pas une fin, mais un processus. Ces propos sont de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr. Plusieurs points ont été abordés au cours des échanges avec l'ambassadrice, notamment l'environnement de l'information en période électorale.
Ça, c'est quelque chose que les États-Unis partagent même avec la Côte d'Ivoire. C'est un souci que l'environnement de l'information, l'écosystème d'information devient de plus en plus difficile.
Un problème majeur auquel s'ajoute le discours politique parfois discourtois.
Leur rhétorique n'était pas toujours aussi respectueux qu'il devait être ou apaisé.
Cependant, ces soucis n'ont pas entaché le bon déroulement des élections américaines. Et dans cette optique, les États-Unis entendent partager leur expérience avec la Côte d'Ivoire à 11 mois de sa prochaine présidentielle.
Nous travaillons main dans la main, Américains et Ivoiriens, pour renforcer les systèmes électoraux, soutenir l'éducation civique et promouvoir la transparence.
Objectif, offrir un résultat représentatif du peuple dans un climat de paix.
Nos programmes visent à renforcer la confiance dans le processus électoral et à garantir que les élections soient libres, équitables, transparentes et apaisées.
Rappelons que la récente présidentielle aux États-Unis a vu l'élection du candidat républicain Donald Trump et son investiture se fera le 20 janvier prochain.
Parlons droits de l'homme à présent. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, a présenté son rapport mercredi devant les parlementaires. Ce fut l'occasion d'aborder des thèmes essentiels relatifs aux droits de l'homme et à la gouvernance démocratique en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Jean-Mélène Bitti.
Devant les parlementaires, Namizata Sangaré, présidente du CNDH, a présenté quelques points clés de son rapport.
Le CNDH a mis en place une plateforme d'alerte précoce dénommée CNDH RCI EOF. Cette activité a permis de recenser 573 incidents, dont 529 vérifiés et 367 qui ont reçu une réponse rapide. Le CNDH a observé au cours de l'année 2023 une recrudescence des actes d'incivisme sur les axes routiers causant des atteintes à l'intégrité physique et au droit à la vie. Le CNDH interpelle sur l'ampleur de ces atteintes de plus en plus inquiétantes. Le CNDH note que plusieurs zones du district d'Abidjan, l'eau potable est une denrée rare en certains points.
Ben Meïté, président du groupe parlementaire RHDP, a exprimé sa satisfaction à l'égard du contenu du rapport.
Je suis satisfait et avec moi, le groupe parlementaire RHDP.
Pour sa part, Dossimo du PDCI RDA a souligné l'importance du droit des Ivoiriens à bénéficier d'élections transparentes et sécurisées.
Pour notre part, député PDCI RDA, nous avons insisté sur le droit des Ivoiriens et des Ivoiriennes des élections transparentes.
Au nom du PPACI, professeur Hubert Oulaye a encouragé le CNDH à œuvrer en faveur d'un état de droit.
Le groupe parlementaire PPACI voudrait encourager le CNDH dans la conduite de ses missions afin que les droits abondamment proclamés en Côte d'Ivoire ne soient plus constamment violés.
D'après le Sénat, il appartenait désormais aux parlementaires de prendre connaissance de ce rapport.
Et autre sujet, lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants dans les zones cacaoyères. Afin de renforcer le système du suivi du travail des enfants et de la traçabilité du cacao, la Côte d'Ivoire, le Ghana, les États-Unis et les industriels du cacao ont signé mercredi à Abidjan un accord cadre 2024-2029. Cet engagement marque une nouvelle étape dans cette lutte, a indiqué la première dame Dominique Ouattara que nous écoutons.
Ce nouveau cadre d'action 2024-2029 intervient après celui de 2010 et nous ouvre de nouvelles perspectives pour un engagement collectif plus fort contre le travail des enfants. À ce titre, il contient des ambitions plus prometteuses pour tous les enfants qui sont victimes du travail des enfants dans les villes, les villages et hameaux les plus reculés et dont l'avenir semble ne réserver aucune issue. À tous ces enfants et adolescents, nous voulons dire que nous ne les abandonnerons pas et que nous comptons honorer notre engagement envers chacun d'entre eux et de les mettre à l'abri de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants. C'est dans cette optique que nous avons décidé d'agir ensemble de manière plus coordonnée et de faire converger nos moyens matériels et financiers afin de mieux lutter contre ce phénomène. À cette fin, nous allons renforcer et étendre les systèmes publics et privés de suivi du travail des enfants, de même que les systèmes de traçabilité du cacao pour identifier, prévenir et remédier à ce fléau.
La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Aménagement du district d'Abidjan, la décision de suspension par le gouvernement des opérations de déguerpissement initiées par le district autonome d'Abidjan a fait réagir récemment l'ONG Amnesty International, section Côte d'Ivoire, qui, tout en saluant cette décision, souhaite qu'elle soit suivie de mesures de soutien adéquates pour les dizaines de milliers de personnes déjà déguerpies. Écoutons à ce propos le plaidoyer du directeur exécutif Delmas Kokou.
Aujourd'hui, c'est nos deuxième communiqué, nous avons produit un premier communiqué où nous avons interpellé l'État de Côte d'Ivoire sur la manière dont les déguerpissements ont été faits et comment ça a été fait et comment des personnes se sont retrouvées dans la rue, des écoles ont été cassées, des enfants ont été déscolarisés, des familles ont été disloquées, des personnes avec des ACD ont perdu leur maison sans aucune suite, sans rien. Et ce qui fait que toute la population aujourd'hui peut se sentir en insécurité. Or, c'est l'État qui est censé protéger la population. Et nous saluons l'acte qui a été posé, qui pour nous devait être le premier acte d'abord avant de déguerpir. C'est-à-dire l'espace qui a été trouvé pour ces personnes doit être fait d'abord avant toute démolition. Mais on ne se lève pas comme c'est beau matin, non. On dit toujours l'État doit protéger la population. La population ne doit pas se sentir en insécurité avec l'État. L'État c'est le dernier recours. C'est avec l'État on se sent en sécurité. Avec l'État on ne doit pas avoir peur.
Et donc
nous d'abord remercions l'État du Côte d'Ivoire pour l'acte qui a été fait. Mais nous demandons à ce que tous les déguerpis, toutes les personnes qui ont été victimes du déguerpissement dans la ville d'Abidjan sont pris en compte dans ce retardement-là.
Vous écoutiez Delmas Kokou, directeur exécutif d'Amnesty International Côte d'Ivoire, joint par Soro Adams. Et parlons maintenant développement de l'industrie des services en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de l'Économie, des Plans et du Développement, le secteur des services a atteint 45,7% du PIB en 2023, dominant les secteurs secondaires et primaires, a indiqué Dr Germain Cramo, enseignant-chercheur en économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui s'exprimait sur le rôle des industries des services dans le développement du pays. Un sujet qui a aussi été au cœur de la 12e édition de la CGC Academy, organisée les 25 et 26 novembre par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Écoutons à cet effet Dr Germain Cramo.
Lorsqu'on parle du secteur des services, il faut voir ce secteur qui englobe toutes les activités qui touchent le secteur tertiaire. Donc normalement, il y a les services commerciaux que nous connaissons tels que les services de distribution, de transport, les services financiers et aussi il y a les services publics non marchands tels que les questions de santé, éducation et administration publique qui représentent aujourd'hui une part très importante dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est un secteur promoteur au regard de la gamme d'activités qui est proposée. Ce sont plus des activités qui soutiennent, je peux dire, les secteurs traditionnels qu'on connaît comme le secteur primaire et le secteur secondaire. Aujourd'hui, il est difficile de penser qu'une entreprise puisse fonctionner sans l'électricité et sans les services de communication. Donc aujourd'hui, ce secteur-là se positionne comme, je peux dire, un élément central dans la bonne marche de l'économie mondiale.
Quel est le poids de ce secteur dans l'économie ivoirienne actuellement?
Selon les chiffres du ministère de l'économie, des plans et du développement, le secteur des services domine l'activité. Ce secteur représente près de 45,7% du PIB en 2023. Donc vous voyez que c'est on tend vers la moitié même du PIB. Donc ce secteur concentre aujourd'hui 45% du PIB. Le secteur secondaire c'est autour de 21% et le secteur primaire autour de 17%.
Docteur Germain Cramo, enseignant-chercheur en économie à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et en environnement, le sommet de l'ONU sur le climat, la COP29, s'est refermé avec la promesse de 300 milliards de dollars d'aide par an d'ici à 2035 pour les pays vulnérables qui la jugent insuffisante. Pour Docteur Boka Assa, économiste et spécialiste des questions environnementales, même si cette somme n'est pas suffisante, le plus important c'est le respect par les pays industriels réaliser de leurs promesses et nous l'écoutons.
Les besoins exprimés par le pays en voie de développement s'élèvent à plus de 1300 milliards de dollars par an. Et en face, les pays riches qui sont les plus pollueurs, et étant donné que ces pays ont plus ou moins des moyens de pression, et compte tenu aussi de la crise actuelle qui se vit, je pense que ces pays ont décidé de donner 300 milliards. Bon, la première analyse qu'on peut faire, c'est que ce financement est très insuffisant par rapport aux besoins des pays en développement. Ça représente moins d'un quart de leurs besoins. Maintenant, ce qui est plus important, c'est la mise en œuvre de ce financement. Parce que depuis Paris, les pays riches ont promis de financer les pays en voie de développement 100 milliards de dollars par an. Ces promesses n'ont pas été tenues. Donc, si vraiment à partir de Bakou, si on arrive à mobiliser les 300 milliards, je pense que à défaut, ça pourrait atténuer les effets du changement climatique si on ajoute d'autres sources de financement comme le Fonds vert également.
Vous écoutiez Dr Boka Assa, économiste et spécialiste des questions environnementales. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a annoncé mercredi qu'une deuxième distribution communautaire de vitamine A, ciblant les enfants âgés de 6 à 59 mois, aura lieu du 29 novembre au 2 décembre dans 40 districts sanitaires. Cette action du programme national de nutrition vise à lutter contre la malnutrition par carence en micronutriments, un problème de santé publique majeur, nous dit Paul-Bénédicte Boulou.
Bien que la prévalence de la carence en vitamine A ait diminué, 60% des enfants de 6 à 59 mois demeurent encore à risque. Docteur René Oka, directeur coordonnateur du PNN.
On cible 2 451 000 enfants pour ce passage annuel. Ce qui fera que pour l'année 2024, on aura donc permis aux enfants d'avoir les deux doses annuelles telles que recommandées pour cette intervention majeure.
Des bénévoles vont visiter les ménages pour la distribution de la vitamine A. Docteur René Oka.
Des bénévoles vont visiter les ménages de proche en proche afin d'atteindre tous les enfants d'ici 59 mois. Cette deuxième distribution communautaire des vitamines A qui va avoir lieu dans les 40 districts se déroulera à partir du 29 jusqu'au 2 décembre. C'est une intervention à haut impact que nous avons choisie pour contribuer à la réduction de la mortalité infantile.
Au nom des partenaires, Anne-Sophie Ledin, chef de la section nutrition de l'UNICEF.
La supplémentation en vitamine A est une des interventions qui est extrêmement efficace. Elle est appuyée dans plus de 80 pays à travers le monde par l'UNICEF, donc ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une intervention qui est très efficace. C'est pour cette raison que nous l'appuyons.
Le directeur pays de Hélène Keller International, Dr Bamba Ibrahim.
Nous nourrissons nos partenaires sur cette intervention de la vitamine A avec le programme national de nutrition, dont je salue ici le directeur et coordinateur, qui nous associe tout le temps dans les interventions, dans les analyses, dans les réflexions qui consistent à ce que nous puissions faire un travail de qualité.
Soulignons que cette campagne va se tenir sur 4 jours.
Hors de nos frontières, je n'oublierai jamais les visages et les regards croisés ici à Adré, a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barout lors de sa visite jeudi dans des camps de réfugiés soudanais au Tchad. Il a exhorté les belligérants au Soudan à mettre un terme à leurs hostilités. Barout a également appelé les puissances étrangères alliées aux belligérants à cesser de jeter de l'huile sur le feu, sans mentionner de pays en particulier. En revanche, il a fermement dénoncé l'attitude de la Russie, qui a mis son veto à une résolution de l'ONU appelant à un cessez-le-feu et à la protection des civils au Soudan la semaine dernière, affirmant que cela représentait un abandon des Soudanais. Et la Cour constitutionnelle roumaine a ordonné ce jeudi un recomptage des voix du premier tour de la présidentielle après la qualification surprise dimanche de candidat d'extrême droite pro-russe et l'élimination du premier ministre. La Cour doit se réunir de nouveau demain à 12h, temps universel. Et c'est donc sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Plus de 15 000 milliards, c'est le budget 2025 de l'État autorisé par l'Assemblée nationale ce jeudi. L'ONG Amnesty International section Côte d'Ivoire se réjouit de la décision de suspension par le gouvernement des opérations de déguerpissement et souhaite que des mesures soient prises pour les déguerpir. Et dans l'actualité internationale, en visite au Tchad, Jean-Noël Barout, le chef de la diplomatie française, appelle à la paix au Soudan. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À présent, votre magazine Santé pour tous avec Paul-Bénédicte Boulou. Santé pour tous.